Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, ce qui me semble vraiment intéressant, on aurait pu à la limite s'attendre à ce que les démarches soient assez centrées sur la construction de critères pour évaluer des projets. On voit, je trouve que vraiment ce qu'on voit, ce qui ressort, c'est qu'il y a un enjeu de co-construction de la politique publique entre collectivités locales et acteurs de l'ESS, avec une clé qui est vraiment la participation des différentes parties prenantes, ce qui est effectivement aussi un lien fort à faire avec ISO 26000. Mais du coup, aussi avec des démarches qui peuvent parfois être empiriques, parfois complexes, donc pas forcément faciles à se réapproprier pour de nouveaux venus. Il me semble que c'est aussi un point de vigilance à avoir. Maintenant, je voudrais vous renvoyer un petit peu la parole. Est-ce que par rapport aux différentes présentations, vous avez des questions spécifiques, des points sur lesquels vous souhaiteriez qu'ils débattent ?
Alors, merci de nous faire remarquer qu'on a le glissement sémantique. Non, je pense que ce qui est en jeu pour aujourd'hui, en tout cas dans notre manière de réfléchir à ces questions-là, c'est à la fois cette question de, bon, effectivement, qu'est-ce qui constitue la singularité ? Mais si on est singulier, et il n'y a que nous qui savons que nous sommes singuliers, ça ne produit pas grand-chose, hein, on va vite finir par que se regarder. Donc la question, c'est comment on peut donner à d'autres, comment les autres peuvent nous regarder, comment on peut les regarder, et comment, une fois qu'on aura fini de se regarder, on peut regarder ensemble sur un modèle, éventuellement sur l'évolution d'un modèle économique à partager. Mais ça a été déjà évoqué ce matin dans les échanges. Ce qui est quand même en jeu, c'est comment à la fois garder ses singularités et créer les éléments de comparaison. Je pense que moi, il m'apparaît que c'est un des enjeux principaux. Comment arriver à mener de ces deux. C'est une tension, hein, une contradiction. Mais ça veut dire que la question est pertinente. Parce que s'il n'y a pas de tension, c'est pas pertinent.
On va, étant donné que le temps est un petit peu serré, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions et puis on va y répondre, enfin plusieurs séries. Donc il y avait une main levée ici, puis une main levée par là-bas.
C'est-à-dire à la fois la prise en compte des parties prenantes et le projet collectif que suppose la création d'une organisation de l'ESS. Je rappelle que le Conseil des associations, par exemple, est 14 millions de bénévoles dans notre pays et qui représente, voilà, l'ESS, c'est aussi la création d'un projet collectif au sein d'une organisation. Donc comment est-ce que les collectivités territoriales prennent en compte les organisations de l'ESS en tant que créatrices de citoyenneté et de projet collectif, en tant que corps intermédiaire avec lequel un dialogue doit pouvoir se construire pour effectivement co-construire les politiques publiques. À mon sens, cette co-construction, elle doit aller bien au-delà du seul secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que je suis ravie de voir financièrement les acteurs de l'ESS, en particulier pour, dans un contexte où je rappelle qu'en 2010, c'est la première année où les collectivités territoriales ne remplissent pas le désengagement de l'État. C'est-à-dire qu'on est, on a passé un point de bascule en 2010 où les associations sont dans une perte de financement net. Et donc voilà, comment est-ce que vous prenez en compte l'objet politique des acteurs de l'ESS? Je pense à l'éducation populaire, à la jeunesse, à la formation, à l'insertion, au sport, à la culture, tous ces objets
c'est
politiques.
C'est le projet de la campagne électorale.
Comment est-ce que vous prenez en compte et comment est-ce que vous organisez le dialogue avec la société civile
organisée?
Donc au-delà de l'économique, une autre question sur les, d'abord la première question autour des critères.
On va parler, nous, des critères. On va parler un petit peu. Non, mais enfin, plus sérieusement, en cinq minutes, pour répondre à ta question, Christiane, mettre un tableau, une grille. Nous, on a une grille d'indicateurs qui est la grille support du groupe de suivi qui a vocation à proposer la décision aux élus sur l'appel à projet. Qu'on a lancé, donc ça fait maintenant plusieurs années, ça fait 5 ans que ça fonctionne comme ça et de façon régulière, donc j'aurais pu effectivement mettre une grille et entrer dans l'intervention comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi ce qui était intéressant, c'était d'extraire de ce processus de décision par rapport à l'évaluation des projets et après ce qui amène à la décision sur un appel à projet, de voir ce qui pour moi avait valeur de réussite de la démarche, y compris participative des acteurs. Comment les acteurs se l'approprient, c'est en étant dans le processus je dirais presque pour une fois sur l'appel à projet, il me semble. Il y a Jean-Paul qui est là, qui est chargé de mission à Nantes Métropole et qui pilote un peu ce dispositif. On est en co-décision. Je ne crois pas qu'il y ait eu peut-être un dossier depuis 5 ou 6 ans qui a été discuté par les élus une fois qu'il y a eu décision de prise sur la grille d'indicateurs avec le groupe de suivi. Corrige-moi si je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a un dossier qui a posé problème entre le groupe d'acteurs et... sur 80. Donc... c'est plus le processus qui m'intéresse. Après, si on a un vrai travail d'approfondissement en atelier de travail sur les indicateurs, peut-être qu'on peut effectivement voir sur les critères et indicateurs. Parce que tu as parlé des critères et après, vous avez commencé à montrer un tableau avec les indicateurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir une batterie de critères sur social, environnemental, démocratie, etc. Puis après, c'est comment on mesure et quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de dire ce projet, il a tant de points ou si ce n'est pas des points, c'est tant de couleurs, j'en sais rien. Enfin, c'est l'évaluation qui va nous permettre de dire on va plutôt choisir ce projet qu'un autre. Mais sincèrement, dans le thème de cette table ronde, moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de dire quelle est la dynamique territoriale qui se met en œuvre et comment on voit les vecteurs de réussite et de progrès dans la démarche entre les acteurs et la collectivité locale pour co-construire des politiques publiques et de faire en sorte qu'elles se mettent en œuvre sur la durée avec cette concertation de la société civile. Et nous, on l'a fait à travers un interréseau qui est impliqué par les animateurs de secteur dans l'appel à projet, mais l'appel à projet est un sous-ensemble de sous-ensemble de la démarche globale sur le territoire. Donc je ne voulais pas simplement focaliser, parce que c'était uniquement là qu'on avait une grille d'indicateurs, sur cette question-là. Il y aurait une autre question sur laquelle je ne vais pas répondre là. Quand j'ai évoqué la conditionnalité des aides, il est évident que dans les collectivités où la conditionnalité des aides est en train de se mettre en œuvre sur le plan social et environnemental, qu'il y a des réunions d'acteurs avec les partenaires sociaux, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec des acteurs économiques, des organisations patronales notamment, pour élaborer la grille d'indicateurs sur la conditionnalité des aides. Voilà. Chette. Donc voilà, on n'a pas le temps de décliner, mais ce que j'évoquais sur la conditionnalité des aides, c'est là aussi un travail dans les collectivités avec les parties prenantes sur les indicateurs. Donc voilà, il y a là...
On répond à Christiane là pour ce stade-là. Donc, nous, on a mis en place des critères. Donc, on l'a fait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon très empirique, y compris, empirique, aussi au vu de l'évaluation, par exemple, de l'appel à projet de la région. Parce que ça, on l'a fait, on en a fait deux. On a dû faire 4 ou 5 éditions maintenant de l'appel à projet. Et donc, il y a une grille de critères. Donc, les critères, je vous dis ça de mémoire, mais c'est le caractère collectif des projets, c'est l'intégration... dans les projets de territoire, et donc les avis des territoires concernés sont souvent requis, en tout cas sollicités, les plus-values environnementales, sociales, enfin les choses un peu traditionnelles, mais quand même, c'est le passage aux grilles de ces critères qui fait que chaque année, sur Éco-Région Solidaire, on mobilise à peu près, selon les années, entre 300, 400, 450 000 euros pour soutenir des études de faisabilité de porteurs de projets. Bon, l'intégralité de ces projets-là sont quand même passés à ce grille-là, avant d'être retenus. La même chose sur, je vous ai parlé tout à l'heure, de l'aide régionale à l'économie sociale et solidaire, donc une aide déclinée, bonifiée, des aides en économie, c'est-à-dire des aides à l'emploi, des aides aux investissements, etc. Elles sont attribuées sur la base d'avis conformes d'un comité technique dans lequel, pareil, on passe l'ensemble des dossiers et des demandes à cette grille de critères.
Oui, moi je crois que sur l'histoire des critères, de l'évaluation, c'est, comme on dit souvent, c'est une culture, c'est une démarche. Et moi je pense à des gens bien précis de ma collectivité préférée qui étaient archi hostiles parce qu'ils avaient rencontré ce type de choses-là depuis longtemps. Alors je vais être méchant, je vais me faire taper par ma voisine, mais c'est du verbiage, c'est du baratin, etc. Et puis comme je l'ai raconté tout à l'heure, on en a fait plein quand même, petit à petit. Et donc il y a des gens maintenant, ils sont vaccinés quand même. C'est-à-dire que le virus est incrusté dans leur tête. Et au moins, ces personnes-là, bien identifiées, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on ressort effectivement cette même démarche. Il y a une deuxième chose, à mon avis, qui... Alors après, je disais tout à l'heure, les gens qui ont participé à ces démarches, maintenant, ils sont outillés. Les autres, non. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que je vois que grâce aux crises financières, à la raréfaction de l'argent public, comme on dit, un certain nombre d'autres directeurs, etc., chefs de service, etc., finalement s'engagent dans cette démarche d'évaluation de l'utilité ou des utilités, parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut bien trouver des moyens pour dire oui, non, etc. Donc, curieusement, dans ma région qui est du Sud et qui n'est pas très habituée à ce type de démarche, en ce moment, on a des avancées tout à fait intéressantes sur ce souci de l'évaluation.
Chef de service, dans quel secteur, par exemple ?
Dans d'autres secteurs que ceux qui travaillaient sur l'emploi. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si c'est une maladie grave qui contamine, mais en tout cas, en ce moment, il y a des circonstances extérieures qui sont éminemment favorables au développement de cette maladie. Et puis, enfin, de cette maladie, on s'entend. Et d'autre part, quand j'ai entendu tout à l'heure parler du développement durable et dire que c'était les trois piliers, j'ai failli bondir parce que je pense que ce n'est bien entendu pas que ces trois piliers, c'est aussi plein d'autres choses. D'ailleurs, dans ISO 26000, c'est bien écrit, c'est en particulier un certain type de gouvernance participative ou démocratique qui me semble être même le cœur de l'histoire, le plus important de tout le reste. C'est aussi des valeurs. Et je pense qu'effectivement, je pense que le compromis de Rio, pour faire simple, sur les trois piliers du développement durable, c'était un compromis petit bras. Alors, je vais me faire encore plein d'ennemis, mais tant pis. Je pense qu'en réalité, le développement durable, c'est beaucoup plus riche que ça. Et d'ailleurs, dans ISO 26000, on en voit bien... Alors, je ne suis pas partisan non plus de ISO 26000. Je n'ai pas d'action à la FNOR. J'ai un stylo quand même. Mais je pense qu'effectivement, il y a des choses aujourd'hui qui sont de notoriété publique, qui sont partagées, sur en particulier de définir un certain nombre de pratiques de gestion. Et derrière, même si ce n'est pas écrit dans la FNOR, je pense qu'effectivement, le cœur d'histoire, c'est les valeurs. Et comme disait mon complice, mon voisin sur de la CRES, je pense qu'effectivement, derrière, c'est on veut une transformation de l'économie et de la société, et on porte un certain nombre de valeurs. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ce travail, on a bien pu le mener avec plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec certaines réticences chez certains, mais sur plein d'autres acteurs économiques, il y a les mêmes aspirations quand même. Et donc, je suis désolé de le dire, mais l'économie sociale et solidaire a, comme tu disais tout à l'heure, a avancé à créer une digue au milieu de l'océan de l'égoïsme, hein, c'est très bien. Mais il y a d'autres digues qui sont créées, qui existent. Et donc tout le problème, et je rejoins complètement ce que disait David Ekel tout à l'heure, c'est comment on fait pour garder chacun ses singularités. Là, moi, je suis un élu, je suis dans un parti politique. D'autres ont une culture, la Grèce a son histoire, ses singularités. Mais d'autres acteurs économiques qui sont ni sur l'économie sociale, ni sur la prise en compte... bon, je suis écologiste, évidemment. Ils ne sont pas écologistes non plus. Effectivement, on arrive à travailler, à se mettre d'accord sur des choses très, très importantes. Donc je pense qu'effectivement, il y a des confluences. Il faut y travailler. J'aime bien ce qu'il disait David, on garde ses singularités, mais on se rencontre.
Sur la question de la dimension citoyenne, bon, alors très rapide, parce que je voudrais qu'on aborde aussi la deuxième question, effectivement. Est-ce que ça, c'est dans une des trois
c'est sur la suite, sur les critères. Parce que ce qui est intéressant à Nantes, c'est la présentation qu'a fait la dame de son projet. Et ce qui aurait été intéressant, c'est que vous nous disiez comment vous, collectivité, la puissance publique, vous avez interprété ce projet, quand même, qui est à 600 ou 800 000 euros, avec un choix très important. Quels sont les critères vous avez mis en œuvre pour dire moi, collectivité, sur ce projet, j'y vais parce qu'il y a ça, ça, ça et ça, et c'est intéressant. C'est ça la demande. Sinon, on va rester dans un débat général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au projet qu'elle a présenté, qui est génial, que tout le monde réfléchit en France aujourd'hui, quels sont les choix qu'a fait la collectivité pour moi.
Parce que moi, je vais interpeller
ma collectivité pour lui dire, voilà, à Nantes, ils ont fait tel choix,
passer une heure avec eux.
Bon, alors en vraiment deux mots, et après je voudrais bien qu'on parte sur les deux autres questions qui ont été posées.
Ça va être dur en deux mots, mais je vais faire en deux mots. Alors.
Désolé. Hein.
Non, enfin, je suis désolé si je n'ai pas été assez précis, mais comme j'en ai parlé une bonne dizaine de fois au sein du RTES et dans des journées, j'ai fait grâce à ceux qui étaient déjà là de revenir sur la présentation de cette interaction entre acteurs de terrain de l'ESS et la collectivité. Simplement, je vais vous répondre en une phrase, c'est on a co-construit le projet depuis le début ensemble. Avec effectivement à la fois un effet vertueux, c'est-à-dire ce qu'elle a dit, la vraie coproduction, sincèrement, c'est-à-dire on a passé un nombre d'heures ensemble de construction du projet, y compris qu'amène ce projet de site derrière. C'est parti en 2001 en se disant on ne fait pas une maison de l'économie sociale et solidaire avec des murs comme on va faire là, d'une forme qui a été l'aboutissement du processus, parce qu'il nous faut nous connaître et travailler ensemble et travailler en inter-réseau avec la société civile. Et après, ça a abouti à un premier plan triennal qui est la politique publique avec ses grandes orientations, etc., dans lequel était intégrée, bien sûr, l'évolution de l'inter-réseau et de ses acteurs et ensuite des éco-solis. Donc là, c'est l'effet vertueux. L'effet plus vicieux, c'est qu'effectivement, comme on était tellement impliqués, que ce soit Jean-Paul ou moi, le technicien et le politique, c'est qu'on était dans une affinité forte avec les acteurs. Et que là peut se poser après la question de l'autonomie du projet par rapport aux politiques et au projet territorial. Et ça, bah, souvent on a des débats avec les acteurs et on rentre peut-être dans une phase un peu nouvelle avec ce lieu où effectivement la question de la gouvernance commune de ce lieu pour pas que la collectivité se réapproprie ce lieu en tant que puissance publique va se poser. Et je pense qu'on a maintenant, on est garant de cette pluralité d'acteurs. Peut-être que ça passera par une SIC, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une des questions qui va se poser. Voilà, j'arrête là. Mais tout ça, c'est aussi de l'histoire qui nous a amené à faire ça ensemble. Et elle a des effets très intéressants, mais elle a aussi des effets, à mon avis, dangereux pour l'avenir. Voilà.
Alors, une autre question, c'était quid de la dimension citoyenne, quid de la prise en considération de l'objet collectif d'une association qui a aussi des bénévoles et qui n'a pas qu'une activité économique et des salariés.
Moi, je pense très sincèrement sur ce plan-là qu'on est assez loin du compte encore aujourd'hui. Hein. Je rentre cet après-midi à Rouen parce qu'il y a un forum sur l'éducation et le développement pour lancer la semaine de la solidarité internationale où il y a une communication et un débat spécifique sur la valorisation du bénévolat, pour ne prendre que cet exemple-là. Je pense qu'on a un vrai sujet, c'est l'année du bénévolat. Et malheureusement, je pense que collectivement, on n'a pas été très percutant sur le sujet. Et moi, je me trouve dans ma collectivité avec une direction juridique qui nous dit... c'est pas possible, hein, on peut pas, on le faisait, on peut pas valoriser le bénévolat, c'est pas possible juridiquement, c'est trop insécure, c'est trop risqué, donc on le fait pas. Point final. Hein. Et on n'est pas capable de poser ça. Moi, le premier, aujourd'hui, on est dans la capacité, de façon un peu efficace, hein, de dire qu'on n'est pas d'accord, premièrement, et que, deuxièmement, il y a sans doute moyen de le faire. Donc, voilà. Donc, après, la question, elle portait aussi sur la reconnaissance, évidemment, des acteurs, corps intermédiaires et tout. Pour nous, ça, c'est acquis totalement. Hein, totalement. L'adresse, les autres partenaires de l'économie solidaire participent à tous les chantiers stratégiques d'aménagement de la région, etc. Donc c'est pas un sujet. Mais beaucoup plus concrètement, s'agissant d'une valorisation symbolique et pas seulement symbolique, hein, de par exemple, des membres du mouvement associatif qui entreprend parfois dans l'économie solidaire, je pense qu'on est très loin du compte, en dehors du fait de dire, évidemment, c'est un critère dans la sélection des projets, c'est quelque chose qu'on essaye d'afficher à qui on, évidemment, reconnaît. On donne une reconnaissance politique forte. De façon, si on essaie de discuter de façon beaucoup plus concrète, je pense qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on est plutôt au début qu'à la fin des difficultés, parce qu'en effet, les collectivités, la mienne n'a pas attendu 2010 pour ne pas compenser les retraits de l'État. C'est vraiment un truc très fort, hein, qui est arbitré maintenant depuis 4 ou 5 ans au Conseil régional de Haute-Normandie. On ne compense pas, hein, les retraits de l'État sur les financements de politiques publiques type jeunesse, puisque vous parliez de la jeunesse, hein, et je pense donc que c'est un problème qui est devant nous, hein, parce qu'il ne me semble pas qu'on puisse collectivement se satisfaire de cette situation, mais là j'avoue très humblement que je considère qu'on n'est pas du tout à la hauteur.
David, tu voulais compléter ?
Non, c'était juste une remarque, c'est que sur cette question de la participation citoyenne et de la valorisation du bénévolat ou du sociétariat, les premiers concernés sont nos organisations de l'ESS. Et je pense qu'aujourd'hui, on prend trop peu en compte le fait que la pyramide des âges de l'ensemble des organisations de l'ESS, que ce soit au niveau des salariés permanents ou au niveau des fonctions bénévoles de production ou des bénévoles de gouvernance, et j'irai encore plus le bénévolat de gouvernance, dans 20 ans, près de 2/3 de nos effectifs ne sont pas renouvelés. C'est pas simplement, c'est des faits, c'est très concret. Donc il y a un enjeu à bâtir des stratégies par rapport à ces questions-là. Et le premier, si à un moment on veut que l'acteur public vienne agir avec nos organisations privées sur ce sujet, pour co-construire là aussi des réponses, il faut que les acteurs de l'économie sociale et solidaire prennent à bras le corps cette question.
Une dernière réaction ?
Oui, moi, ma réaction, elle est sur la question de l'évaluation. C'est-à-dire que la question de l'évaluation, là, c'est comme si, pour moi, on se promenait entre l'évaluation pour la collectivité et l'évaluation pour les acteurs eux-mêmes de l'économie sociale et solidaire. Et évidemment, il me semble que ça ne se pose pas de la même manière. Pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, le lieu de l'évaluation, à un moment donné, face à la collectivité, il passe par la demande de subvention. Il est là, le niveau d'évaluation, à un moment donné, c'est là qu'il est posé. Et c'est pas rien. Hein, c'est pas rien dans la forme et sur le fond, bien évidemment. L'autre chose, c'est quand l'acteur lui-même, et moi je fais partie de ceux qui ont participé aux travaux de l'évaluation de l'utilité sociale dans les années 2000, eh bien, lorsque les acteurs se posent la question d'utilité sociale, eh bien, je trouve qu'ils se perdent. Ils se perdent à définir des critères, à évaluer l'endroit où ils sont bons, si je puis dire. Et non pas l'endroit où ils sont fragiles. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, là où on est tous les uns et les autres fragiles, c'est sur les modèles économiques. C'est sur comment, effectivement, articuler l'objet, le projet, en conserver l'utilité sociale, mais en l'intégrant dans une réalité économique. Et là, quelle complexité, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de mettre en avant nos valeurs qui est difficile, c'est de les rendre, économiquement viables. Je ne sais pas si je dis les choses de manière juste. Et ça, je pense que ce qui est intéressant sur ces questions-là, c'est effectivement d'accepter de co-construire entre acteurs et collectivités. Parce que ça paraît antagoniste. Et pour moi, je suis persuadée que ça ne l'est pas. Que c'est du politique, ça.
Voilà, bien sûr. Côté en bourse.
enfin, nous, je pense qu'il n'y a pas une réponse à qu'est-ce que c'est que l'économiquement viable. Il y a des réponses. Hein, et si cette économie sociale et solidaire, en tous les cas, dans l'expérience qui est la mienne sur le territoire, a une qualité, c'est d'accepter la complexité. Et si, je crois, on travaille de manière positive avec une collectivité, en l'occurrence comme Nantes Métropole, c'est parce qu'on a en face de nous des élus et des techniciens qui acceptent de faire avec cette complexité. Et donc avec de la diversité, en tentant à la fois de formaliser sans s'enfermer dans des formalismes. Et on est toujours là-dedans, quoi. Et on cherche, hein. Puis il y a des moments où on se trompe, il y a des moments où on n'est pas d'accord, etc. Hein. C'est pas toujours simple, loin de là.
Merci beaucoup. Je suis désolée, je crois qu'on va devoir s'arrêter maintenant si on veut bénéficier des lumières de Claude Alfandéry sur le groupe Label, parce qu'il va devoir partir assez tôt. Donc, voilà.
Juste une piste par rapport, parce qu'on entend en construction à tous les mots, et c'est bien, moi je suis, je pense que si on va jusqu'au bout de la co-construction, il faut qu'on aille vers le terme d'alliance, c'est-à-dire que l'ensemble, et que ça renvoie à tout le débat sur relations collectivité publique et acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est là-dessus que je voulais, et la deuxième chose que je voulais dire, parce que c'est un vrai souci pour nous en région Haute-Normandie, c'est comment on fait reconnaître par les acteurs de l'innovation sociale ou ceux qui sont en charge de financer l'innovation dans les régions, comment on fait reconnaître l'innovation sociale. Là, il y a un vrai débat.
Qu'on ne va pas engager maintenant.